Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cette édition spéciale, j'ai la grande chance de recevoir Carole Beribi, qui est DRH d'une entreprise dont la marque est incroyablement célèbre puisqu'il s'agit d'Obad. Durant cet épisode, nous allons parler du rôle des DRH pendant la crise actuelle, nous allons parler de jeunes générations, nous allons parler du bien-être au travail grâce à la qualité du management, à la qualité de la communication, et enfin, nous allons parler des différences du bien-être en fonction des secteurs d'activité. Bref, il s'agit d'un entretien passionnant et j'espère que vous l'apprécierez autant que j'ai apprécié le faire. Bonne écoute. Bonjour Carole Beribi.
Bonjour Gaëlle.
Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, tout d'abord, une rapide présentation de mon invité, comme d'habitude. Alors, vous êtes diplômé de la Sorbonne et dès le début de votre carrière, ce qui est assez rare, en 1998, vous vous orientez directement vers les ressources humaines. Vous commencez en tant que consultante RH chez Hudson en 1998, puis vous prenez le poste de responsable recrutement et mobilité groupe chez SunGard Global Trading, je le dis à l'anglaise, en 2006. En 2008, dans la même entreprise, vous devenez responsable RH France et Espagne. En 2011, vous devenez responsable des ressources humaines et responsable de la communication interne chez iMedia, avant de changer totalement de secteur d'activité, puisqu'en 2013, vous arrivez à l'Institut Pasteur en tant que responsable du département proximité, ce qui est, si j'ai bien compris, l'équivalent de 8 responsables des ressources humaines avec un périmètre de 2500 personnes. Et très honnêtement, il faut croire que vous aimez les changements radicaux de secteur d'activité puisqu'en 2018, vous devenez directrice des ressources humaines de la très célèbre marque Obad. Alors traditionnellement, je commence cette interview par une question plutôt personnelle qui est « Que représente pour vous votre activité professionnelle ?»
Alors, c'est forcément une question très, très intéressante et particulièrement pertinente au regard du bien-être au travail, je dois le dire. Ça représente énormément pour moi. C'est-à-dire que, pour reprendre un tout petit peu la chouette présentation que vous avez faite de moi, moi, les ressources humaines, ce n'était pas mon orientation de départ. C'est-à-dire que je souhaitais être commissaire-priseur et après une courte expérience, finalement, je me suis réorientée. Et c'est par pur hasard que je me suis retrouvée dans les ressources humaines. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a été une vraie rencontre et je suis tombée en total amour de ce secteur d'activité, de cette profession. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça représente énormément pour moi. Et le temps passé au travail, alors presque paradoxalement par rapport à l'équilibre vie privée et vie professionnelle qui rentre dans le domaine évidemment du bien-être au travail. Moi, aujourd'hui, je suis une vraie workaholic. Donc, mon bien-être à moi, c'est d'avoir et d'être nourrie intellectuellement par mon travail et de pouvoir mener toutes mes actions au quotidien dans mes fonctions. Et comme j'ai la chance de ne pas dormir énormément, j'arrive à concilier aussi un petit peu ma vie privée. Et voilà, donc ça représente beaucoup pour répondre à votre question.
Et j'imagine que la période actuelle n'a fait qu'augmenter parce que je vois beaucoup de RH qui sont pas limite burn-out, mais je vois, enfin si, je connais des DRH qui, du fait de cette période, sont vraiment très limite en termes de bien-être parce qu'ils travaillent trop. Est-ce que cette période, pour vous, ça a été une explosion en termes d'activité? Parce que vous avez été très centraux, les RH,
pensez-vous. Absolument. Et je trouve d'ailleurs qu'on n'a pas été assez bienveillants avec les DRH. Je trouve qu'on ne les a pas plaints assez, finalement. Alors, plus sérieusement, c'est vrai, je trouve qu'on en a très peu entendu parler. Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. Moi qui adore travailler et qui travaille beaucoup, c'est une période où effectivement, j'ai énormément travaillé. Après, moi, j'ai eu la chance en tout cas de le vivre de manière incroyable. Je l'ai vécu comme une aventure, moi, cette période Covid. J'ai eu la chance de travailler en binôme avec mon directeur général et le binôme a super bien fonctionné. Donc, ça signifie évidemment un travail gigantesque. J'ai eu la chance d'être particulièrement bien aidée de mon équipe aussi. On a formé une équipe incroyable. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidée. C'est ce qui m'a aidée, c'est ce lien que j'ai pu avoir au quotidien, à la fois avec mon directeur général et à la fois avec mon équipe, qui a fait qu'on s'est sorti de toute cette histoire, au bas de s'est sorti de toute cette histoire, on va dire, plutôt la tête haute, même si le marché est difficile. Donc, je dois dire que j'ai peut-être été chanceuse dans l'histoire, mais non, ça s'est bien passé. Évidemment, un travail incroyable, mais un travail incroyable.
Vous savez, Carole, je vais vous faire plaisir parce que j'ai écrit un article pour un site internet que j'aime beaucoup qui s'appelle mayerachline.com. Si vous ne connaissez pas, je vous engage à aller le voir. Et l'article s'appelait « Les DRH, dans le sens direction des ressources humaines, les héros du corona ». Parce que je pense qu'effectivement, on vous a un peu oublié dans les remerciements parce que vous, pas en tant que Carole Bérébi, mais les RH en général, vous êtes vraiment les héros. Et on pensait en septembre que vous pourriez prendre un peu de vacances. Pas de bol, ça continue.
Absolument.
Alors, pour changer de sujet, est-ce que vous pensez, avec l'expérience que vous avez, que la perception que les salariés ont de leur travail ont évolué depuis votre début de carrière ?
Ah oui, définitivement oui. La notion de travail, le sens même du travail, je pense, en tout cas, a littéralement été transformé même. Et je dois dire que c'est même particulièrement agréable parce que ça bouscule un petit peu les quadras ou les quinquas que nous sommes, sans faire un peu vieille chouette, mais je pense vraiment qu'on a aussi beaucoup à apprendre de la nouvelle génération qui arrive et qui, effectivement, a une position sur l'équilibre vie privée, vie professionnelle beaucoup plus importante que cela n'était pour nous, pour moi en tout cas. Je pense que cette vision a changé effectivement et ça se voit dès le recrutement. Dès le recrutement, les questions ne sont plus les mêmes. On parle aujourd'hui de congés, de télétravail, de temps de transport, de autant de questions qu'on ne s'autorisait même pas à poser à l'époque. Donc, je dirais que oui, ça s'est beaucoup transformé. La jeune génération arrive avec effectivement une idée intéressante et importante de l'équilibre qu'il doit y avoir entre la vie professionnelle et leur vie privée. Et je trouve que ça peut apporter beaucoup et faire évoluer quand même pas mal de choses en interne, en entreprise. Parce qu'en tout cas, je pense que moi, en tant que DRH, je pense vraiment qu'il ne faut pas combattre ça. En tout cas, c'est une donnée à intégrer. Et comme toute donnée à intégrer, du coup, il faut travailler dessus et voir comment on peut... je dirais que toute la question devrait être comment on peut intégrer effectivement cette transformation et cette façon nouvelle de voir les choses par la nouvelle génération qui arrive et comment l'allier à la performance de l'entreprise.
Mais en ça, la période actuelle a été relativement une chance. Parce que je parlais ce matin et je disais quelque chose à une entreprise, qu'il faut voir la période que nous vivons actuellement non pas comme une transition avant de revenir au monde d'avant, mais plutôt une transition qui prépare le monde d'après, qui finalement n'est qu'un révélateur de quelque chose qui existait déjà avant le confinement. Les gens voulaient plutôt du télétravail, voulaient un équilibre, comme vous le disiez, entre la vie privée et la vie professionnelle. Et là, on n'a pas le choix. Donc, ça a été vraiment un accélérateur. Donc, vous, c'est vraiment la démarche dans laquelle vous êtes. Le OBAD d'avant le corona ne ressemblera plus jamais à ça.
Probablement non, pour répondre à votre question. En tout cas, on va tout faire pour surfer justement sur ces transformations positives qu'a pu nous apporter la période. Je pense qu'on est beaucoup d'entreprises comme ça à vouloir, on va dire, accélérer un petit peu certains sujets ou projets qu'on hésitait un petit peu à mettre sur la table. Le télétravail en est un bon exemple, mais il y a d'autres sujets également et on va surfer un petit peu sur tout ce que nous a apporté cette période délicate pour pouvoir accélérer les choses et pouvoir les mettre en place. Donc oui, il y aura forcément un avant et un après.
Si j'ai bien compris, vous avez travaillé 4 fois plus pendant cette période que d'habitude. Oui. Mais la période actuelle étant quand même très, très agitée, comment pour les salariés de BAD, donc je ne pense pas à vous qui travaillez visiblement 25 heures par jour, comment est-ce que vous avez réussi à concilier le bien-être de vos salariés et l'urgence économique ?
C'est difficile de répondre à cette question parce que, très honnêtement, quand on a l'obligation, malheureusement, de mettre au chômage partiel des collaborateurs, je dirais, et n'y voyez aucune malice de DRH derrière cette réponse, les faire revenir au travail motivés et sans inquiétude pour l'avenir, ou relativement sans inquiétude pour l'avenir, parce que personne n'a de boule de cristal, mais en tout cas, en tant qu'entreprise, de tout faire pour rassurer nos collaborateurs qu'il n'y aura pas de casse après la reprise, je dirais que finalement, c'est presque ça pour moi, en tout cas aujourd'hui, qu'on pourrait apporter comme, entre guillemets, bien-être au travail. Non, tout le reste serait gadget.
Je pense que, mettez pas de guillemets, parce que bien souvent, les entreprises ont oublié une chose fondamentale, c'est à quel point il suffit d'ouvrir n'importe quel journal ou n'importe quelle télévision. Un salarié, la période est extrêmement anxiogène, oui. Donc jouer ce rôle d'information et de un peu de contre-pied par rapport à ce qu'un salarié peut entendre à la télévision, c'est effectivement du bien-être. Le premier, c'est vraiment la pyramide de Maslow.
Premier niveau, exactement.
C'est est-ce que j'ai mon boulot demain ? Donc votre réponse est très très intéressante. Alors si on parle du bien-être de façon plus générale, comment est-ce qu'il y a un exemple dont vous êtes fier autour du travail du bien-être chez Obad ?
Alors le premier travail, je dirais, dont on est fier chez Obad, c'est avant toute chose tout le travail qu'on peut faire autour du management.
Ah vous, ouais. Vous allez de plus en plus me plaire sur ce coup-là.
C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, en tout cas, moi, je pars du principe que le bien-être au travail, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le bien-être au travail, on a beaucoup de, on va dire, d'affichage sur le bien-être au travail qui va de, que sais-je, des massages en entreprise, ça peut aller sur tout un tas d'événements conviviaux que je trouve chouettes, hein, de manière générale. Mais je dirais qu'avant toute chose, en tout cas, moi, la première brique de toutes les briques du bien-être au travail, c'est accompagner le management en tant qu'RH pour les aider à faire de la collaboration avec leurs collaborateurs un moment hyper positif, hyper constructif et qui soit développant pour le collaborateur. Donc, je dirais que moi, ma plus grande fierté chez Obad, mais j'avoue que ça a été mon credo dans toutes les entreprises que j'ai pu traverser, c'est de pouvoir aider les managers à se comporter en manager, à faire du feedback, à être plus assertif, à dire évidemment tout ce qu'il faut quand le travail est super bien fait, de la même manière dire les choses quand ça ne va pas et pouvoir aider à se rattraper si c'était le cas, accepter les erreurs de ses collaborateurs, expliquer et construire. Je pense qu'en tout cas, oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la première brique de bien-être au travail, c'est de travailler sur le management et que le management, les managers, puissent faire en sorte que les collaborateurs se sentent bien dans leur poste.
Vous savez, depuis que je fais des interviews, c'est la première fois que quelqu'un me fait cette réponse et je suis profondément convaincu que tant qu'on n'a pas attaqué cette brique, effectivement, on peut faire tout ce qu'on veut si on a des managers qui sont toxiques ou qui font mal, parce qu'il y a un manager toxique, mais aussi celui qui fait mal. C'est difficile d'avancer. Mais alors, comment est-ce que vous avez géré justement pour les managers qui ont dû, pour beaucoup, découvrir le management à distance ?
Et on ne les a pas lâchés, en fait. Toute la clé, je pense, et pour moi, le mot-clé de cette période un petit peu difficile, ça a été la communication. La communication envers nos collaborateurs qui étaient donc en chômage partiel, donc à distance et ne pouvant pas travailler. On a pris le parti, en tout cas, de maintenir le lien. Et ça a été très bien accepté, c'est-à-dire que même si on utilisait des moyens personnels pour communiquer avec eux, on a eu, tous nos collaborateurs, collaboratrices, très très féminins chez Obad, ont accepté de jouer le jeu de la communication à distance pendant toute la durée du confinement. Et ce qui fait qu'on les a préparés au retour aussi. Et on a eu des équipes hyper motivées qui revenaient. Donc la communication régulière, pour vous donner un peu plus de détails, on avait à cœur avec donc Philippe Bernot, notre directeur général, de faire deux communications au moins par semaine, une communication DG et une communication DRH, pour parler de ce qui se passait, en tout cas dans l'entreprise ou dans le groupe, côté RH, pour expliquer toutes les étapes administratives ou du chômage partiel, ou pour parler de tout un tas d'autres sujets plus RH pendant cette période. Et en parallèle, avec mon équipe, on n'a pas lâché les managers. On les avait, je parle notamment spécifiquement les managers du siège, on les avait allés tous les deux jours au moins en visio ou au téléphone pour les aider dans toutes leurs problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Parce que tout le sujet aussi, j'ai beaucoup parlé des personnes qui étaient à distance et au chômage partiel, mais évidemment, on avait un certain nombre de personnes qui travaillaient, qui avaient, je dirais, presque le courage de travailler. On a notamment nos équipes logistiques qui ont assuré tout le suivi des commandes de notre site internet et qui venaient tous les jours sur notre site du côté de Saint-Savin, et également nos collaborateurs du siège qui ont continué de travailler à distance, qui n'ont rien lâché. Donc toute cette communication-là, elle a été très très importante, et je dois dire que c'est ce qui a probablement fait qu'on a tenu, en fait. On a tenu. Et tout le monde a joué le jeu de la communication. Et pour revenir à votre question, pour moi, le bien-être, ça passe déjà et en premier lieu par ça. Évidemment, après, on va parler de tout un tas de choses qu'on pourrait rajouter, mais je dirais qu'en tout cas, en période de crise, pour moi, c'est le numéro un de toutes les clés du bien-être au travail.
Mais en fait, on en revient souvent aux fondamentaux et aux basiques. Et c'est vrai que les grandes, dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, on dit que la bonne communication, c'est quand même source, si ce n'est de bonheur, à minima de bien-être.
Ouais.
Vous le confirmez, donc c'est plutôt assez rassurant. On n'a pas besoin, et ça ne demande pas, vous allez peut-être l'infirmer, mais ça ne demande pas des moyens financiers énormes pour mettre ce genre de politique.
Ouais, c'est super. Faut aimer ça. Faut aimer ça, en revanche.
Bien sûr.
Faut aimer ça. Faut aimer communiquer et essayer de transmettre et de rassurer.
J'ai tout de même une question qui me chatouille un petit peu au regard de votre parcours et qui,
oui.
J'espère que vous aurez une réponse. Parce que vous êtes passé quand même de secteurs d'activité incroyablement variés dans des positions RH. Donc, vous avez un regard sur les RH entre l'Institut Pasteur et Aubade. Vous me l'accorderez, il y a un petit écart en termes de…
Absolument.
Mais est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre la gestion du bien-être, vraiment spécifiquement du bien-être, même des salariés, en fonction des activités des entreprises, ou finalement, ce que vous dites là peut s'appliquer à toutes les entreprises?
Je pense que ça peut s'appliquer à toutes les entreprises. Peut-être que la seule nuance que j'apporterais quand même, c'est qu'à l'Institut Pasteur, c'est donc une fondation à but non lucratif. Et je dirais que peut-être contrairement aux autres entreprises que j'ai pu faire, qui étaient donc des entreprises de secteur marchand, qui doit générer un chiffre d'affaires, je dirais quand même qu'évidemment à l'Institut Pasteur, j'avais cette dimension passion, non pas désintéressée, parce que c'est un milieu où évidemment l'argent a son importance, mais il n'a pas la même finalité. Et je dirais que le sens évidemment des salariés, tout va se jouer sur le sens, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Pour moi, quand un collaborateur a du sens dans son travail, évidemment, le bien-être arrive, en tout cas un peu plus que d'autres qui en auraient moins. À l'Institut Pasteur, je dois reconnaître que ce sens-là, qui est universel, la recherche médicale, il y avait des chercheurs d'une telle passion que je dois dire que là, j'ai pu voir effectivement quand même en tant qu'RH ce que ça pouvait être que le bien-être au travail, parce que pour le coup, les chercheurs… Et puis, travaillait 24-24 quasiment, et 7 jours sur 7, par passion, par conviction. Et c'est vrai que voilà, j'ai peut-être vu une toute petite nuance dans ce type d'entreprise. Mais globalement, quand même, ce qui pour moi est le fil conducteur quand même du bien-être au travail, c'est probablement, oui, la passion qu'on met dans son métier. Et je vous le disais tout à l'heure, le fait d'être bien quand on arrive à son poste de travail. Et d'être bien à son poste de travail, ça passe en numéro un par l'accompagnement du management, le management en règle générale, la communication qu'on peut y trouver, sans faire de schéma idéaliste. Hein. Évidemment, la mariée n'est pas toujours belle selon les endroits, j'en ai conscience. En tout cas, je pense qu'en tant qu'RH, quand on a compris ça, je pense que nos actions déjà sur le bien-être au travail sont beaucoup plus impactantes. Après, tout ce qu'on y rajoute, tout ce qu'on peut ajouter dans voilà, les événements festifs, je vous disais tout à l'heure, toutes ces magnifiques actions qu'on peut rajouter quand on a un peu de budget dans une entreprise, pour moi, ça se rajoute, c'est la cerise sur le gâteau.
Il faut déjà avoir de bonnes fondations.
Absolument, c'est la clé.
Et c'est vrai que le sens, on n'en avait pas parlé avant, mais c'est vrai que c'est plus simple dans l'absolu, a priori, je dis bien. Quand on est à l'Institut Pasteur, j'ai beaucoup travaillé avec l'établissement français du sang aussi, il y a ce même genre. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui écoutent. L'établissement français du sang a besoin de beaucoup de sang en ce moment, donc allez donner votre sang.
C'est vrai.
Donc, je ferme la parenthèse, mais c'était important. C'est vrai que le sens dans certaines entreprises semble plus simple, mais il y a aussi la fierté d'appartenir à une entreprise, la fierté de la marque. Dieu sait si vous travaillez pour une belle marque que tout le monde connaît et ce sentiment de fierté doit exister. Donc, ça fait quand même un terrain.
Absolument.
Pas plus simple, mais en tout cas, vous jouez avec des leviers qui… on est sur l'émotionnel et le lien à l'entreprise. Et je vais finir sur une question qui est pas étrange, parce que ça va vous positionner en tant que gourou, d'une certaine manière.
Oula, ah, dangereux.
En fait, si vous deviez donner un seul conseil à un dirigeant, un manager ou à un salarié d'entreprise, quel serait ce conseil?
Je dirais avant toute chose, être attentif peut-être. Être attentif et ne jamais lâcher la communication. Pour moi, ce sont vraiment les deux éléments clés.
Eh bien, écoutez, Carole, mille merci pour cet entretien absolument passionnant où vous nous avez permis de de revenir sur des fondamentaux qu'il est bon de rappeler, et que c'est bien de mettre un baby-foot, mais c'est mieux de faire des fondations. Donc, encore une fois, mille merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite
merci à vous.
Très bonne continuation. Au revoir, Carole.
Merci beaucoup, Gaëlle. Au revoir.